Ça fait longtemps qu'on sait que nos hôpitaux manquent d'infirmières. Ça date même d'avant la pandémie. Il y a Nathalie Staquet-Doucet, qui est présidente de l'Association des infirmières, qui m'avait dit, écoutez, c'est pas une pénurie, c'est une hémorragie, parce que les filles, ce sont surtout des femmes, les filles s'en vont, veulent plus travailler dans les hôpitaux, c'est trop dur, l'organisation du travail est trop déficiente, c'est trop dur sur le moral, sur le physique, sur le psychologique, donc on s'en va. Et là, la pandémie a accéléré l'hémorragie, montre à quel point c'est tragique de manquer de personnel dans nos hôpitaux. Résultat, de ce temps-là, ben on déplace des infirmières vers les zones où on traite des patients COVID. Il y a même question de déplacer des infirmières de région vers des hôpitaux de Montréal pour travailler aux urgences et en soins intensifs. Bref, l'heure est grave. On fait le point tout de suite avec Nancy Bédard, qui est présidente de la FIC, le principal syndicat des infirmières. Madame Bédard, bonjour.
Monsieur Lagacé, bonjour.
OK, d'abord, parlez-moi. Je sais qu'il y a eu un sit-in hier à l'hôpital Notre-Dame. D'abord, c'est quoi un sit-in, puis qu'est-ce qui s'est passé?
Bien, quand les professionnels en soins, les infirmières notamment, sont rendus dans un centre d'activité à faire un sit-in, c'est qu'il manque tellement de monde pour rentrer faire le corps de travail. Alors, je vous donne un exemple. Si on est dans une urgence où on a 54 patients, puis qu'habituellement, on est supposé d'être 10 ou 12 pour soigner ces patients-là selon les normes, puis qu'on est 6, puis qu'on nous dit, ben vous allez travailler à 6 pour pour donner les soins aux patients, il y a une limite professionnelle à notre imputabilité, notre responsabilité à faire en sorte qu'on puisse accepter jour après jour de travailler dans cette situation-là. Et souvent, ben quand l'équipe rentre dans un corps de travail puis qu'il voit qu'il manque, on est le tiers au lieu du complet pour travailler, maintenant on s'assoit puis on dit au gestionnaire, là ça suffit, vous avez pas été assez proactif, il y a des éléments qui manquent. Puis on le sait, là, souvent la frustration, c'est qu'on les voit, les manques, bien avant, puis on le sait qu'il y a une difficulté de gestion depuis des années, puis la pression, puis le temps supplémentaire, t'as beau donner, là, puis travailler 16 heures trois fois par semaine, puis des 10 jours en ligne, puis te faire refuser tes congés, on est imputable des soins, nous. Hein, on a des codes de
déontologie. Par imputable, ce que vous voulez dire, c'est que si une infirmière fait une erreur, ben elle peut être tenue professionnellement responsable.
Elle est tenue responsable plus que ça, c'est-à-dire que c'est pas juste une erreur, c'est-à-dire que les soins ont des normes et des standards qui, s'ils sont pas donnés selon les normes et les standards, ils peuvent avoir des préjudices. Je vous donne un exemple. Vous êtes en chirurgie, j'ai 5 retours d'opérés qui ont souvent là beaucoup d'antidouleurs qui sont donnés, puis il y a des protocoles. Je dois prendre des pressions aux 15 minutes, un patient qui revient du bloc opératoire, qui sort de la salle de réveil, pour m'assurer qu'il est correct. Je suis dans une salle d'urgence, j'ai un patient qui a une pierre au rein, on lui donne des médicaments très forts à ce patient-là. C'est rendu qu'on les sort dans les corridors, et ces patients-là, puis on le sait, il y a déjà eu des décès, notamment d'un journaliste à cet égard. Si vous suivez pas votre patient, vous n'êtes pas capable d'aller prendre le contrôle de ses signes vitaux, puis c'est juste un exemple parmi tant d'autres, aux 15 minutes pour le suivre, puis qu'il arrive quelque chose, puis une détresse respiratoire, vous allez être tenu responsable vous êtes tenu responsable de faire en sorte que le suivi de vos patients, puis le suivi selon les normes et standards des médicaments qui sont donnés. Puis ça, c'est tellement un petit exemple parmi tant d'autres à laquelle on est confronté depuis des années. Je vous entendais là quand vous, en prérogative de mon entrevue, ce que vous avez dit. Je pense que ça, c'est quelque chose que je dénonce depuis des années pour nos membres. Donc, la réalité est là. Donc, les sit-ins sont souvent faits quand on pousse au maximum les professionnels en soins dans leur dernier retranchement, puis ça juste comme plus de bon sens de leur demander d'avoir autant de charges de patients dans un contexte où on sait qu'on est en bas de la sécurité, mais on est dans la dangerosité de donner des soins. Alors, okay. Voilà, ça explique pourquoi les gens font des sit-ins.
Là, on prend des infirmières qui ne sont pas spécialisées, parce que c'est une sorte de spécialisation en soins intensifs, en soins d'urgence, on les forme un peu sur le coin de la table pour aller prêter main forte. C'est une logique de guerre de tranchées, là.
Absolument. Là, on est en terrain de guerre quand on fait ça, et c'est là que la pandémie vient démontrer jusqu'où le système avait pas de bon sens et était fragile avant. Alors, vous me dites aujourd'hui, est-ce que je suis d'accord avec du délestage ou pas? On a juste comme pas le choix. Qu'est-ce que je dis au monde, à mon monde de Maisonneuve-Rosemont, puis des Laurentides, puis de Lanaudière, puis de Montréal, qui sont justement dans des exemples que je viens de vous donner actuellement, et que le délestage est fait au maximum dans ces centres hospitaliers-là, mais que pour juste donner les services essentiels actuellement. Je suis tellement en manque de professionnels en soins pour être capable de donner le minimum puis de m'assurer des standards. Puis du temps supplémentaire, à un moment donné, il y a des limites là, à ce qu'on peut demander à un humain. On est déjà à la surcapacité de ce qu'un humain peut faire. Je me demande toujours comment ils font pour faire ça. Ils sont extraordinaires. Mais on est dans des mesures où on commence à penser à du délestage. On le fait dans les établissements. Mais ce que je dis, vous avez tout à fait raison, c'est on peut-tu se donner quand même du temps pour former ces gens-là? Parce que il faut pas, c'est un défi d'exposer les professionnels en soins quand ils ont des expériences et des expertises qui sont différentes. Vous savez, c'est facile de délester, puis là, c'est la voie la plus facile de dire on va fermer le bloc opératoire, ce qu'on fait actuellement, puis on va prendre une infirmière de bloc opératoire, puis on va l'envoyer aux soins intensifs. Quand on travaille dans la vraie vie, là, quand on a un poste aux soins intensifs, c'est des semaines de formation qu'on a. Peu importe qu'est-ce qu'on a comme infirmière, comme expertise, d'où on vient, c'est très spécialisé. C'est la même chose. Une infirmière, peu importe d'où elle vient, quand elle s'en va au bloc opératoire, c'est presque un an de formation pour être capable d'être autonome en bloc opératoire et de pouvoir donner des soins de bloc opératoire. On donne des soins, puis on a une expertise qu'on développe avec les années, avec nos compétences. Donc, on n'est pas interchangeable comme ça du jour au lendemain.
Mais Mme Bédard, on se comprend là que, bon, on l'a dit tantôt, là, c'est la guerre, donc il y a des mesures qui sont un peu exceptionnelles. Oui. Mais
on n'a pas le choix.
N'en demeure pas moins que les personnes qui vont être soignées par ces infirmières-là n'auront pas les soins optimaux qu'ils auraient hors pandémie.
Bien, ce qu'on souhaite, c'est que malgré la crise puis la pression, qu'on s'arrête puis qu'on s'assure de donner les outils puis la formation pour que ces professionnels en soins-là soient capables de quand même donner les soins que ça prend actuellement puis de soutenir puis d'aider l'équipe de soins. Cependant, la différence aux médecins, parce que c'est quand même très appréciable, là, les médecins qui vont venir aider les professionnels en soins. Souvent, ce qui arrive, c'est que eux, ils vont aider, prendre des pressions, les médicaments. Les médecins sont capables de faire certains trucs pour nous aider, ça c'est clair. Mais une infirmière qu'on va déplacer, elle, rapidement, on va s'attendre à ce qu'elle prenne soin des patients puis qu'elle ait une charge des patients. Donc, moi, je dis, oui, mais il y a une limite. Faisons attention. Puis la professionnelle en soins qu'on va déplacer, elle peut pas, on peut pas penser qu'elle va être capable de prendre en charge avec toute l'expertise, effectivement, comme vous le dites, qu'une professionnelle en soins a actuellement en soins intensifs. Donc, il faut organiser le soin pour pas exposer mon monde à des expériences ou des éléments désastreux qui pourraient là vraiment se retourner contre elle. Donc, on peut pas. Il y a une limite qu'on peut pas franchir, puis il y a des objectifs qu'on peut s'attendre, mais les attentes, à un moment donné, doivent avoir une certaine limite. Et la pression que ça donne sur ces professionnels en soins-là, c'est ça aussi qu'il faut savoir. Une infirmière qui travaille en gastroscopie depuis 15 ans, moi, je pourrais pas aller la remplacer, puis elle peut pas me remplacer non plus comme ça. Ça demande de la formation pour être capable de le faire. Fait que l'infirmière en gastroscopie, qu'on a fermé sa clinique, puis qui vient aider, soit à l'urgence ou dans une unité COVID ou aux soins intensifs, il y a vraiment une limite et il faut la soutenir.
Je vous écoute, là, puis bon, c'est un peu comme, je sais pas, on prend une métaphore du monde de la construction. C'est pas parce que t'es bon en plomberie que tu vas être bon en électricité.
Exactement. Chacun a son champ d'expertise. On est quand même capable, tu sais, on a une formation de base, là, puis on est capable de soutenir puis d'aider. Mais ce qui arrive dans le contexte, c'est souvent les gestionnaires, ça sera pas long, qui vont nous dire, ben, aujourd'hui, il manque tant de personnes, fait que tu as une charge de patient complète. Puis là, ta collègue est déjà vraiment surpassée, puis, tu sais, elle a vraiment plein sa charge. Puis là, ben, c'est sûr qu'ils vont vouloir s'aider. On va se dire, c'est mieux que rien. Mais ça fait juste nous situer dans la situation catastrophique qu'on est, puis qu'est-ce que ça veut dire en tant que soin, puis la pression que les professionnels en soins, ça leur donne en plus dans le contexte où on est là. C'est vraiment, vraiment limite. Là. Quand moi, c'est plus que sérieux, ça frôle la catastrophe actuellement.
Expliquez-moi quelque chose, Mme Bédard. Je lisais là, sur le site de Radio-Canada, c'est une nouvelle qui est sortie aujourd'hui. Il y a 73 000 infirmières dans la province et l'année passée, là, on a noté une hausse record du nombre d'infirmières. Si on manque pas d'infirmières, sont où?
Sont où? Ben, juste depuis le mois de mars, là, Bon, avant la pandémie, là, on se disait déjà la même affaire, OK? Puis on se disait, mais ils sont où? Bon, ils avaient commencé à partir dans les agences privées, dans les cliniques privées, tous des endroits où, puis je les comprends, là, qui peuvent avoir une organisation de vie, là, minimalement acceptable. On a des taux d'invalidité qui ont monté, là, énormément. Puis depuis le mois de mars, là, on a des démissions, puis on a vraiment un exode vers les agences privées, là, qui est vraiment faramineuse. Fait qu'il y en a peut-être 77 000 qui ont leur permis. Il y en a plusieurs qui sont allés complètement dans d'autres choses, puis qui ont vraiment viré le cap. Il y en a qui sont retournés à l'école. Il y en a qui sont dans les agences privées. Il y en a qui sont en invalidité encore plus. Donc, lesquels qui ont ces permis-là, qui actuellement travaillent dans le réseau de santé publique, ben c'est là qu'il faut se questionner. Puis comment se fait-il que notre réseau de santé publique est rendu tellement pas attractif? Ben des conditions comme on avait avant la pandémie. Puis là, après 10 mois, je vous dirais, puis là, les agences privées, écoute, ils ont la main-d'œuvre indépendante, eux autres, ils ont le beau rôle parce que mon monde, là, Maisonneuve Rosemont, là, pensez-vous que on est parti de 64 postes d'inhalothérapeute à 16, puis que tous ces gens-là, ils n'ont pas besoin de travailler pour payer leur épicerie le jeudi, puis que c'est des gens qui aiment leur profession, puis il y en a plusieurs qui sont partis vers les agences privées, parce que les agences privées, elles choisissent leur jour qu'elles veulent travailler, elles ne font pas de temps supplémentaire obligatoire, puis ça, je vous dirais que c'est une offensive que je fais maintenant, là. Je pense que le gouvernement doit s'assurer de mettre des nouvelles règles sur les contrats qui sont passés entre les agences et les établissements quand on va, on demande des professionnels des agences. Il faudrait faire en sorte que ces contrats-là fassent en sorte que les professionnels des agences vont avoir minimalement des conditions qui seront à peu près les mêmes que les miennes sont assujetties actuellement, notamment pendant la crise. Ça veut dire que si dans une équipe de travail, j'ai la moitié qui proviennent de l'agence, puis la moitié qui sont de l'établissement. Ben à 4 heures ou à minuit, s'il manque de monde là, ben autant les gens qui sont de l'agence, ils devraient être obligés de rester à temps supplémentaire.
Conscrites comme les infirmières qui sont pas dans
l'agence. Absolument. Là, on est rendu là, puis c'est une demande que j'ai faite formellement hier. Là, il y a toujours bien des limites, parce que tout ce que ça va faire, c'est qu'à chaque jour, il y a une professionnelle en soins dans le réseau de santé publique qui se dit, moi, je vais faire le saut, il y a des limites avec mes conditions de travail actuellement.
OK. Merci beaucoup, Mme Bédard.
Ça m'a fait plaisir.